notre invité est Michael Moglia. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes délégué général pour ce prix nouveau qui donc mobilise beaucoup d'énergie et de talent.
Oui, comme la plupart des projets associatifs, militants, bénévoles, on est pleinement investi.
Alors, pourquoi un nouveau prix ? Il y en a déjà, qu'on connaît très bien, je ne veux pas revenir. Mm-hmm. Souvent, ils sont attendus, ils mettent en valeur des romans ou d'autres choses qui ont ensuite un succès en librairie ou voilà, en vente. Donc l'objectif de ce prix littéraire qui s'appelle Cheval Blanc, et on va revenir à pourquoi Cheval Blanc, qu'est-ce qu'il vise pour se différencier des autres, justement ?
Il y a beaucoup de raisons séparées, peut-être qu'elles n'auraient pas justifié la création de ce prix. Et puis, mis bout à bout, tout cela fait qu'à un moment, je me suis dit qu'il y avait matière à faire. D'abord, moi, je crois beaucoup à ce qu'apportent les troquets, les bistrots de quartier, ces lieux de vie que l'on retrouve et dont on a bien vu durant cette longue fermeture due au virus, au Covid, qu'elle mettait certaines personnes isolées, seules, dans un certain désarroi, parce que bien souvent, pour beaucoup de personnes, les cafés, les troquets, les bistrots sont des lieux où du petit crème du matin jusqu'à la chope de demi que l'on prend dans la journée sont des lieux où parfois, pour beaucoup, sont les seuls endroits où ils peuvent trouver quelqu'un, se saluer, prendre de leurs nouvelles. Or, il se trouve que dans notre pays, chaque année, 7 000 bars, 7 000 troquets disparaissent de nos villes et villages, ce qui fait quand même 19 par jour. Et je trouve que c'est une vraie question de société, une vraie question sociétale en tout cas, même si souvent des grands groupes ouvrent des lieux de vie, ils ne ressemblent pas à ces lieux sans prétention qu'on retrouve dans nos quartiers.
Alors, c'est vrai que certains écrivains, je pense à des écrivains d'il y a une cinquantaine d'années, ont été habitués de bistrots, de cafés. Certains écrivaient même dans ces lieux.
Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si vous regardez bien les prix qui, pour l'essentiel, sont à Paris, mais il y a aussi un pied de nez de ma part et une petite pirouette là-dessus. Mais l'ensemble des prix sont remis dans des lieux prestigieux qui sont des cafés ou des restaurants à Paris. La Coupole, la Closerie des Lilas, les Deux Magots, le Flore. Et il me semblait intéressant de prendre un troquet, alors cette fois-ci hors de la capitale, à Lille, dans un quartier populaire, Oisem, et qui est un bistrot aimé de beaucoup, et pourtant sans le prestige des lieux que je viens de citer.
Voilà. Donc, un bistrot, maintenant, il faut quand même montrer patte blanche, il faut avoir un pass sanitaire. C'est un peu nouveau, la nouveauté, là, cette année.
Pour quelques temps encore, oui.
Donc, j'espère que ça va disparaître assez vite. La dernière fois que je suis allé manger là, bon, un coup, c'était ouvert encore. On pouvait y aller comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un public parfois local et parfois des gens qui se baladent dans le coin. Mais c'est un lieu incontournable et où il y a beaucoup d'animation, je pense. Quand il y a ce festival Flonflon.
Tout à fait, oui.
Accordéon, tout ça.
Animé par Claude Vadaz, oui.
Tout à fait. D'ailleurs, ça dure maintenant un bon moment, ce festival.
Oui, depuis plus de 20 ans.
C'est décentralisé aussi sur d'autres villes que Lille.
C'est ça.
Et donc, c'est un lieu qui accueille, bien sûr, aussi parfois des groupes de musique, comme pas mal de cafés du côté d'Oisem. C'est toujours très animé, ce quartier-là, la place derrière et tout ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais le prix est là pour renforcer ça aussi. Oisem est un quartier populaire, c'est un quartier que nous sommes très nombreux à aimer parce qu'il est vivant, il a une jeunesse très, très importante, un certain dynamisme, mais aussi, malheureusement, comme beaucoup de quartiers, c'est un quartier qui est confronté à pas mal de problèmes de paupérisation, de difficultés sociales, qui bien souvent entraînent de l'insécurité. Et donc c'est vrai aussi qu'à un moment, les acteurs culturels du quartier se sont dit, mais comment on peut, nous, à notre niveau, participer à planifier les choses, à amener au travers de la culture une possibilité pour les uns et les autres, en tout cas, de se parler.
Alors, c'est vrai que pour les jeunes du quartier, tous ne sont pas forcément des lettrés, on va dire, on va résumer.
Tout à fait.
Pas tous. Pour certains, c'est même compliqué d'entrer dans l'écrit. et de l'écrire encore plus, hein, mais même de lire déjà, c'est pas toujours facile. La culture, c'est quelque chose qui est parfois limité à de l'oralité qu'ils accueillent, soit par des médias un peu spécialisés, soit entre eux, etc. On a du mal à partir de ce langage qui est très minimal finalement, hein, à faire que des idées, des réflexions abouties se développent.
Mais je partage tout ça et en même temps je dis attention parce que bon, moi, pour dire les choses clairement, je suis toujours un peu agacé. Si on prend le cas de Lille, par exemple, mais le centre-ville, en fait, accueillerait le Théâtre du Nord, l'Orchestre National de Lille, l'Opéra, et puis les quartiers se verraient déléguer le rap ou les festivals de tag. Or, ça, c'est vraiment une vision de la politique culturelle qui m'a toujours ulcéré et qu'une bonne partie de la classe politique, et particulièrement la gauche, dont c'était une de ses missions, a complètement abandonné ce qu'on appelait encore dans les années 80 la culture populaire. Or, là, je vois bien, on est un peu débordé par les événements parce que, vous le rappiez gentiment, c'est une opération animée par des bénévoles et une structure associative. Mais on voit qu'il y a un véritable engouement autour du livre, pourtant dans un quartier populaire, et pourtant, c'est vrai, avec des gens qui ont des difficultés avec la lecture.
Alors justement, on voit quand même quelques initiatives intéressantes, notamment des points où on peut déposer des livres, on peut en prendre, on peut les lire et les remettre. Peut-être ça peut être une bonne idée que dans ces quartiers-là, il y ait des livres, pas forcément les plus complexes, mais qui soient une passerelle, en fait.
Oui, tout à fait. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, d'autant, et moi je le regrette, mais que les institutions culturelles ne mènent plus beaucoup de politiques en faveur de la lecture, ne mènent plus beaucoup de politiques de lutte contre l'illettrisme, par exemple. Il y avait des budgets à la région il y a encore quelques années qui ont disparu. Le département est assez absent sur ce sujet. Enfin, un peu comme si c'était peine perdue. Souvent, moi, je me retrouve face à des interlocuteurs qui me disent « Ah, oh, mais maintenant, c'est les réseaux sociaux ». Et les livres n'intéressent plus personne. Or, on a vu pendant la crise, pendant le Covid, que les libraires ont eu un élan de solidarité, un élan populaire en direction de ces lieux, où la plupart des librairies font des chiffres jamais enregistrés alors qu'ils étaient fermés.
Il y a quand même à souligner, par rapport aux conseils départementaux, évidemment, un investissement dans les bibliothèques publiques.
Oui.
C'est évidemment important. C'est un budget.
Bien sûr.
Et les bibliothèques ne sont pas les bibliothèques d'il y a 50 ans. Je veux dire, il y a de la dynamique, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont proposées aux visiteurs. Le tout, c'est d'entrer, quoi.
Tout à fait. Un peu comme dans les musées, hein. Le tout, c'est toujours d'entrer. Ouais. Mais c'est aussi, pour revenir au prix, un moyen peut-être aussi de faire rentrer, puisqu'on passe là par un bistrot de quartier connu, où la patronne est aimée et embrassée de tous, c'est une figure du quartier. Et donc là, je me suis dit, il y a aussi peut-être une porte d'entrée. Vous avez certainement lu les 25 romans qui sont en compétition, mais on y retrouve aussi, je pense, des auteurs qui parlent au quartier. Le premier roman d'Oxmo Puccino, le cri, l'appel d'Akhenaton, le livre d'Ima Abdallah. Bon, je pense qu'on a aussi, dans notre sélection, fait des choix qui pouvaient toucher. J'ai oublié de citer Jamel Cherighi, mais cet épicier roubaisien dont le livre marche très très fort, chez Lattès, La Sainte Touche, qui est un livre formidable, sont aussi des bouquins qui peuvent amener à l'envie de lecture, je pense.
Est-ce qu'il y aurait un jour je sais qu'il y a des cafés littéraires, par exemple, des cafés philo. On peut imaginer des cafés littéraires où on présente un extrait de livre, un débat avec le public, où des jeunes du quartier ou des quartiers peuvent venir un petit peu voir ce qui s'y passe et pas rester très longtemps parce que souvent ils n'ont pas une attention illimitée. Mais pour se mettre dans un bain de lecture ou de mots qui diffèrent du langage habituel.
C'est un peu l'origine des cafés, hein. On a perdu ça avec le temps, mais on a tous en tête des images de ces cafés enfumés, littéraires, Sartre-Beauvoir, ou ces clubs en sous-sol où on y dansait sur du jazz. Mais les bars ont toujours, à l'origine, étaient des lieux de confrontation, d'engueulades, de débats, un peu à l'image des émissions de Pollack ou autres. Enfin, tout ça, comme la société s'est aseptisée, malheureusement, et on a perdu cela. Mais pour certains, c'était la musique avec les guinguettes du dimanche. Pour d'autres, c'était des soirées littéraires ou les jeux de cartes. On a tous en tête ces parties de jeux de loisirs.
Donc, Si on a bien compris, il y a beaucoup de choses qui existent en littérature, enfin, d'événements autour de la littérature, mais il y a encore sans doute moyen de se creuser un peu les méninges pour amener à l'ouvrir à de plus larges publics.
C'est ça, oui, je pense qu'il faut, mais c'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour toutes les disciplines culturelles. On a tendance dans notre pays à sectoriser les choses. Tous les clichés qui collent à la musique classique, au jazz, au théâtre de répertoire, qui en fait ne seraient finalement réservés qu'à une certaine élite ou à des gens lettrés ou diplômés. Je crois que notre société a toujours beaucoup de mal à sortir des clichés, en fait. Hein, et si l'on regarde ce qui est la politique culturelle qui est menée dans notre région depuis 25 ans, et beaucoup remonte à l'époque de Pierre Mauroy, lorsqu'il était soit maire de Lille, soit président de région, mais les initiatives qui permettent d'aller à l'opéra pour découvrir les plus grandes œuvres d'opéra sur des billets à 5 euros, les choses qui ont été développées en extérieur, d'accès libre, la fête de la musique, enfin, toutes ces choses ont démontré que finalement, la sectorisation n'existait pas et que quand on amenait la culture, y compris donc dans les quartiers populaires, les gens s'en emparaient, quoi.
Alors, ils s'en emparent pour la, entre guillemets, consommer, mais ils s'en emparent parfois aussi pour la produire. Mmh. Et là, on voit bien tout ce qui s'est passé autour du slam, etc., où il y a eu quand même des beaux noyaux, des pépites aussi de gens passionnés, passionnants à voir sur une scène, en échange comme ça, qui venaient à la radio, qui présentaient un court extrait, mais qui avait du sens, qui était puissant, on ressentait des émotions profondes. Donc tout ça, on peut imaginer le créer, l'adapter à d'autres publics. Et puis je pense beaucoup, quand on dit que les jeunes ne savent plus lire en partie, il faut quand même dire qu'à l'école, souvent, ils ont su lire. Et qu'au bout de 10 ans, quand ils sont moins jeunes, donc quand ils arrivent à 25 ans, ils n'ont plus pratiqué la lecture, ce qui fait que c'est un monde un peu différent. Et leur univers texto, etc., ça réduit considérablement le langage. L'orthographe, on n'en parle même plus, mais au-delà de ça, peut-être aussi les idées. Et je pense que du fait que les gens aient des idées un peu limitées, ils ont aussi moins de capacité à réagir à des idées toutes faites de groupes un peu dangereux qui infiltrent leur cerveau.
Je suis bien d'accord avec vous, mais le livre, c'est la réflexion, parce qu'un livre, c'est 200, 250 pages, 300 pages, donc c'est des heures d'analyse, de lecture, on pose, on reprend le livre, on reprend la réflexion, et ça demande aussi une certaine envie, concentration, un certain effort. Et comme on est dans une société de l'immédiateté où tout doit aller vite, où tout, bon, forcément, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que vous aviez raison, les gamins lisent à l'école, lisent quelques années après en sortant de leur cursus scolaire. Et puis, il y a une période de latence de 20 à 25 années où on retrouve le livre finalement plutôt vers 55 ans, 60 ans, quand peut-être aussi l'immédiateté se pose et on est dans une autre consommation de livres depuis quelques années.
On a un petit peu ce même problème avec les enfants qui vont voir des spectacles quand ils sont à l'école, au lycée, et qui après, finalement, ça ne les passionne plus tant que ça, quoi. Et je peux un peu comprendre ça quand on est au lycée. Bon, les spectacles ont changé, ils sont beaucoup plus adaptés, on va dire, à des publics. Mais moi, je me souviens, il y a très longtemps, d'avoir vu des choses très pénibles sur des scènes où tout le monde se foutait éperdument du spectacle, ce qui est un préjudice à la fois pour les comédiens, les compagnies, les troupes, et aussi pour les gens qui auraient pu manifester un intérêt pour ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils voyaient. Donc, des rendez-vous manqués avec certains publics. Bon, là, maintenant, il est clair qu'il y a des médiateurs dans les grands centres culturels. Il y a moyen d'amener d'autres publics avec une perception différente des œuvres, un approfondissement, même une préparation. Donc ça, on a beaucoup vu. Toutes les scènes nationales, les grands théâtres, etc., pratiquent ça. Et ça crée vraiment... Alors, justement, la question de savoir si ça crée à long terme des pratiques. Et après, est-ce que ces pratiques, elles sont réalistes au vu des coûts quand même? Après, une fois qu'on est sorti du circuit, pas favorisé, mais où on aide les gens avec des tarifs modestes, après, il faut quand même payer un petit peu, quoi.
Bien sûr.
Donc, voilà, il y a toute une économie, sachant qu'il y a quand même lieu de réfléchir sur ce qu'est des prix de recettes par rapport à des centres culturels subventionnés, où je pense qu'on doit être autour de Je ne voudrais pas mentir, hein. On peut me détromper, mais je crois qu'on est autour de 10% de recettes pour 90% de subventions.
Absolument, absolument. Hein? Un opéra, un grand concert de musique classique, baroque ou autre, on est sur 10% de billetterie. Oui.
C'est ça. Hein? Bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la partie purement, on va dire, commercial de la structure pèse relativement peu sur des budgets. Donc, entre être gratuit ou moyennement cher ou un peu cher, finalement, c'est quand même le contribuable qui paye les 90%.
Tout à fait. Mmh.
Donc, ça vaut le coup quand même de réfléchir en termes de politique culturelle. À quel moment on favorise l'accès sur des projets à des gens qui ne pourront pas de toute façon payer.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et les choses vont plutôt mieux. Moi, j'ai un gamin qui a 20 ans, mais c'est donc pas très très vieux. Mais je me souviens quand il avait 10 ou 11 ans, il rentrait de l'école un peu désespéré, me regardait avec les yeux de chien battu en me disant « je dois lire tel roman, tel livre pour dans les 15 jours qui viennent ». Et je voyais dans ses yeux son désespoir parce que c'était des grands classiques de la littérature. Et c'est vrai que je n'ai jamais compris ce blocage, par exemple, sur ce point-là, qui empêche aujourd'hui de mettre au programme des bouquins qui sont d'excellente qualité, mais qui correspondent davantage. Alors, on me parle de patrimoine, on me parle... Mais moi, je pense aussi que si des gamins trouvent de la pétence, de l'envie de lire, par la suite, ils liront les grands classiques. Mais pourquoi ne pas leur faire lire un Modiano ? Pourquoi ne pas les mettre à lire un Houellebecq ou... Et forcément devoir passer par des livres qui, moi-même, aujourd'hui, sont... Enfin, je trouve d'un chiant infini, quoi.
Alors, dans les écoles, il y a quand même les enseignants qui vont soit dans les bibliothèques du quartier, soit qui font venir des bouquins dans l'établissement et qui les mettent en prêt. Hein. Donc là, ça ne coûte rien. Et puis aussi, là, comment on sensibilise, on donne l'intérêt, parce que c'est un effort de lire des choses un peu plus évoluées, on va dire. Comment on peut associer ça au plaisir ? Parce que pour moi, effort, s'il n'y a pas le plaisir, on n'avancera pas beaucoup, surtout avec des gens qui, au départ, n'ont pas de projet avec ce qu'ils vont faire de cette lecture dans le cadre d'un avenir professionnel ou autre. Donc, recentrer autour du plaisir, du désir et d'avancer ensemble en accompagnant ce public, ça pourrait être vraiment intéressant.
Bien sûr. Quand vous dites le plaisir, ce qu'il y a en face, c'est la punition, quoi. Bien souvent, moi, j'ai vu dans les yeux de mon gamin qu'il n'y avait aucune notion de plaisir, mais presque une punition, quoi. J'ai un souvenir très frappant d'une expo dans un musée à Dunkerque d'art contemporain qui était très dur d'accès, très très dur d'accès. Moi, j'adore l'art contemporain, mais là, j'avoue que moi-même, j'étais perturbé, je comprenais rien. Ça n'avait pas de sens. Enfin, c'est quelque chose qui me... Bon. Et il y avait une classe de gamins qui était là de 10 ou 11 ans et qui... Mais la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, mais ils vont rentrer, ils ne rentreront plus jamais de leur vie dans un musée. Parce qu'il n'y avait pas les clés d'accès, parce que c'était trop dur, parce que... Bon, et je pense que là, on a une responsabilité collective, systématiquement, qui est quand même de dire, le but, c'est de créer le plaisir avant de donner le sentiment d'une punition.
Alors, je vais souvent au Louvre-Lens, parce que j'habite Lens, donc oui. Je vais souvent aux conférences de presse, présentations, tout ça, et ils ont quand même, pour les enfants, une vraie approche avec des gens, presque des pédagogues qui vont... Alors, il y a toute une documentation accessible avec des grandes tablettes tactiles où les enfants peuvent aller entrer en s'amusant un petit peu, on va dire, aller chercher l'information par rapport à l'exposition, etc. Il y a beaucoup de choses à voir et à entendre qui dépassent une lecture formelle de choses un peu figées, mais qui vont aller sur les côtés pour ramener le plaisir, justement, de faire le tour d'une expo autrement que par les points majeurs, on va dire, par lesquels on veut les faire arriver à l'œuvre. Mais je pense que c'est un ensemble. Et je pense que de plus en plus, il y aura des gens associés par les gens qui gèrent ces lieux et les gens dont c'est le métier d'éduquer d'une manière ou d'une autre pour faire que les projets avancent.
Absolument. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais la Galerie du Temps, par exemple, au Musée du Louvre, est quelque chose qui a été pensé, qui est très intelligente parce qu'on s'y balade, elle est gratuite, et on s'arrête, on ne s'arrête pas, on aime une œuvre, on n'aime pas, on peut faire deux fois le tour si on veut. Et là, je vois souvent des gamins ou des familles qui prennent plaisir parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'obligation, de voilà. Je crois que ça a été conçu de façon plutôt intelligente et il y a effectivement le personnel en nombre qui est là pour accompagner les gamins et les aînés d'ailleurs.
Alors quelque part, c'était une contre-révolution, la Galerie du Temps, parce que justement, elle donne des strates et on lit l'histoire au travers des œuvres, mais sur un temps qui est défini chronologiquement.
C'est ça.
Alors que dans les bouquins, enfin, à un certain moment donné, l'apprentissage de l'histoire, c'était plus autour de notions, de choses comme ça. On replongeait dans l'histoire, que là, on est dans une chronologie qui redonne des choses très intéressantes. Par exemple, la mise en perspective, au même temps de l'histoire, des évolutions dans des civilisations qui avaient des pratiques, des formes d'art très évoluées par rapport à d'autres, ou moins. Et là, on ressent vraiment, à un même moment, par exemple au Moyen-Âge, ce qu'il y avait là. Et on est assez surpris de voir que des pays qui sont maintenant retombés, d'une certaine manière culturellement, avaient une civilisation fabuleuse.
Incroyable. Oui, c'est vraiment d'actualité.
Ben oui, là, faut se pencher là-dessus.
Tout à fait.
Et tous ceux qui sont dans des pays qui viennent maintenant comme réfugiés, etc., quand on se penche sur leur passé culturel, on a vraiment des choses à redécouvrir.
Tout à fait.
Que pourraient aussi en être fiers, d'ailleurs. Donc voilà, on est un peu loin de la littérature, mais tout ça nous amène quand même à dire que... Il y a eu ce moment où les gens sont restés chez eux, beaucoup ont lu et finalement on pensait que les librairies allaient s'effondrer, or le livre s'est beaucoup vendu, donc c'est quelque part un bon signe. Là maintenant que les gens vont un peu ressortir d'une manière ou d'une autre, ils peuvent aller dans les librairies, hein. C'est des endroits où il fait bon furet, comme dit l'autre, fureter. Et donc, ce prix littéraire du Cheval Blanc, Michael Moglia, en tant que délégué général de ce prix, comme c'est le premier, comment il a été, déjà en fonctionnement là, assez vite, assez rapidement, pour faire une sélection ? Qui l'a faite et est-ce que ce sont des livres que le jury est allé choisir ou est-ce qu'on a proposé des livres au jury qui les a étudiés? Comment ça se passe, la sélection?
Oui, c'est un des plus gros boulots que nous avons eu à faire. Il faut savoir qu'en France, sort chaque jour 300 livres. Chaque jour. Alors, tout livre confondu, de la cuisine au jardinage, au roman, au policier, au polar, etc. Mais enfin, quand même, on a donc eu une première sélection de 800 romans. Sur ces 800 romans, puisque nous avons quelques critères, l'un de nos critères, c'est que le futur roman lauréat soit un premier roman. Donc, on a sélectionné exclusivement les 25 romans qui étaient en compétition, sont 25 premiers romans. Alors, ça ne veut pas dire de jeunes auteurs, parce qu'on peut. On a par exemple le premier roman de Gerda Kadostin, Laissez Folie courir, qui a 68 ans et qui a écrit son premier roman à 68 ans. Mais en tout cas, un premier roman qui a une maison d'édition et un diffuseur pour qu'on puisse retrouver ensuite ce livre primé dans nos librairies et faire vivre nos libraires. Et donc, de ces 300 romans, 320, nous avons fait une sélection de 25.
Alors, une sélection de 25, un prix qui sera déterminé, rendu, on va dire, public, avec donc entre deux encore des sélections pour affiner.
Tout à fait. Les 25 romans ont été arrêtés le 28 juin. Le jury s'est à nouveau réuni le 5 septembre et nous sommes passés de 25 à 15. Puis le 3 octobre prochain, nous passerons de 15 à 8. Fin octobre, le 25, nous passerons de 8 à 4. Et enfin, le 7 novembre, à 11h au Cheval Blanc, nous annoncerons le livre lauréat.
Au niveau des médias, j'allais dire que ça intéresse. Et là, je vois par exemple la Gazette de Lille, un hors-série spécial sur ce prix littéraire, donc Cheval Blanc. C'est donc à Lille, ça se mobilise.
Oui, ça marche bien parce que il y a... Je vous remercie de l'invitation aujourd'hui, d'ailleurs, qui prouve votre intérêt.
Ben oui.
C'est-à-dire que beaucoup se disent, mais tiens, quartier populaire, des livres dans un bar. Et donc, il y a un besoin d'explication, que je comprends bien. Hein. Mais, et puis, on a la chance d'avoir Benoît Delépine qui viendra annoncer le lauréat. Et on est très content de recevoir Benoît, puisque... Parmi nos critères, j'en ai cité déjà quelques-uns, l'idée est aussi que le livre corresponde à ce qu'est Oisem, corresponde à ce qu'est ce quartier et ce bar. Et donc, on cherche un livre qui soit décalé, dont l'écriture soit décalée, que le livre nous tombe des mains au bout de quelques pages. Et Benoît a tout de suite répondu présent pour venir annoncer le livre lauréat. Il participe d'ailleurs beaucoup aux lectures, nous fait des fiches, des notes, nous donne ses avis et sera là le 7 novembre à 11h.
Voilà, Benoît Delépine, donc président du jury 2021, première édition, hein, donc de ce oui. prix Cheval Blanc. Donc, sur la page Facebook de l'émission Quoi de Neuf, hein, souvent on vous met, enfin on est nombreux maintenant à mettre des choses dessus. Hein. On met beaucoup d'infos et il y a pas mal de choses sur les événements littéraires. Je pense notamment à Françoise Objoie, hein, ma collègue qui met énormément de choses et même quand il y a des événements locaux, régionaux, voilà, on diffuse pas mal de choses. N'hésitez pas à vous y inscrire et à publier quand vous voyez un événement intéressant pour le public. Lillois, mais au-delà hein, même, mais restons en région quand même, si vous voulez bien. Voilà, donc il y a quand même dans la région des librairies indépendantes qui ont toutes leur originalité. Je ne sais pas si elles s'aiment toutes et si elles s'entendent toutes, c'est encore autre chose, mais en tout cas, elles existent toutes dans des espaces de la métropole.
Oui, et elles s'entendent plutôt bien d'ailleurs. Elles travaillent beaucoup ensemble au sein d'une association qui s'appelle Libre Air, Libre comme la liberté, Libre, apostrophe AIR, Libraire. C'est une association très dynamique et qui structure les libraires entre elles pour qu'elles puissent mener des projets communs. Il y a eu par exemple le week-end dernier à Lille un salon de la jeune édition, de l'édition jeunesse plus précisément à Saint-Sauveur. C'est une association dynamique qui fait beaucoup de choses.
Donc là, je pense que c'est la rentrée. Donc, je ne sais pas, au niveau littérature, au niveau littéraire, est-ce que septembre, c'est aussi une rentrée? Vous, en tout cas, c'est la vôtre. Est-ce que c'est partout la même chose?
Oui, c'est une période un peu folle sur laquelle il faudra un jour réfléchir et revenir certainement, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de livres. Le problème aujourd'hui, mais c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour la musique, c'est que vous avez au cinéma des tas de films qui sortent le mercredi, vous découvrez ces films, vous avez envie d'aller les voir, et lorsque vous arrivez le mercredi ou le jeudi à la séance suivante, ils sont déjà sortis, parce qu'en général, il ne reste qu'une semaine ou deux à l'écran. Et c'est vrai, des bouquins, quand vous avez 372 livres qui sortent dans le cadre de la rentrée littéraire, c'est impossible pour un libraire normalement constitué de prendre l'ensemble de ces livres. Et donc, il reste très, très peu sur les tables. Et donc, ce qu'on essaie de faire aussi au travers de ce prix, c'est de... Et le lauréat sera accompagné durant toute une année. C'est que les maisons d'édition nous ont dit, mais si vous voulez nous rendre service, aidez-nous à faire vivre ces livres dans la durée. Et donc, durant un an, on accompagnera le livre lauréat au travers des lectures musicales, à travers des séances de dédicaces, de rencontres avec le public. On va faire des lectures durant le marché d'Oisem en plein air. On va faire une petite fête autour de ces livres à la Maison Folie d'Oisem. Enfin, on est en train d'organiser toujours autour du lauréat pour lui donner le temps de se poser, de faire connaître son livre. C'est peut-être, sans vouloir être trop long, une des choses qui nous différencie très fortement avec les plus grands prix parisiens, je pense par exemple au Goncourt, qui remet des prix à des livres qui ont déjà vendu. Parfois, le dernier Goncourt avait déjà vendu 300 000 exemplaires lorsqu'il a eu son prix Goncourt. Alors, il a ajouté à ces 300 000 exemplaires 600 000, hein, puisqu'un Goncourt, c'est une prime de 400 à 600 000 ventes supplémentaires. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et on s'est dit qu'un livre qui était déjà à 300 000 ventes n'avait absolument pas besoin d'une mention littéraire, d'un prix Et donc plutôt d'être sur des romans plus difficiles d'accès, courageux, et qui méritent d'avoir une mise en avant pour le public.
Alors, parmi cette présélection, on va dire, est-ce qu'il y a des auteurs de la région ?
Oui, on en a plusieurs. On a Jamel Chérigui, donc cet épicier de Roubaix, là, qui a écrit la Sainte Touche et qui est un livre qui marche très très bien, dont les ventes marchent très bien. On a une très très belle maison d'édition dans la région qui s'appelle La Contre-Allée et qui a donc sorti ce roman de Lou Darsan, Lara Chebel, qui est aussi donc un livre de la région. Anne-France Larivière, L'expérience du vide aux éditions de L'Aube. Et je voudrais surtout pas en oublier Céline Valkoviak, chez Aubane, La colère des orphelins. C'est une espèce de polar qui a lieu à Oisem, qui est un livre très intéressant. Céline nous a beaucoup touchés parce que, en fait, son frère Gilles a écrit le premier tome, puis un deuxième roman, parce que le premier avait bien marché. Et il a écrit le troisième, La colère des orphelins. Et puis Gilles est décédé à la fin du premier chapitre, du premier paragraphe. Et Céline a décidé de prendre la suite et d'écrire la fin de ce troisième roman. Donc c'est quelque chose qui nous a touchés. Le livre est très bien en plus et a lieu à Oisem. Voilà en ce qui concerne la sélection des livres de la région.
Donc on peut peut-être imaginer que certains de ces auteurs que vous avez repérés, qui sont en région, ce sera plus facile pour eux, viennent ici présenter leur livre, lire un petit extrait. Voilà, et bien sûr, le prix qui sera remis, le premier prix, celui-là, on pourra aussi, même s'il est au-delà de la région, le faire intervenir par téléphone s'il n'a pas l'occasion de venir à Lille. Mais ça pourrait être aussi une belle occasion de présenter un petit peu l'ensemble qu'on peut repérer comme ça et qu'on peut valoriser au travers de la lecture à la radio.
Oui, ça serait très intéressant. L'auteur, quoi qu'il arrive, sera là le 7 lors de la remise, puisqu'on va garder le péplum des prix parisiens, parce que ça nous fait beaucoup rire. Et donc à 11h, le lauréat sera annoncé par Benoît Delépine. Et à midi, on fera arriver en limousine l'auteur, comme dans les prix parisiens. Mais on a voulu garder ce décorum-là qui nous semble suranné, et en même temps tellement suranné que ça nous fait rire. Donc d'imaginer ça à Oisem, au Cheval Blanc. Et donc l'auteur primé sera là le 7 novembre à midi.
Alors qui pourra le rencontrer ?
Vous, toutes celles et ceux qui le voudront.
C'est ouvert ?
C'est ouvert, bien sûr. On fera l'annonce en public avec l'ensemble des clients habitués. Le dimanche est déjà très petit, on ne sait jamais trop où mettre le mot. Mais on va structurer ça dans un joyeux bordel, peu importe. L'idée, c'est vraiment que ça soit une grande fête populaire. Et on se dit que plus il y aura de monde, plus on parlera du livre, des livres. Et, si vous permettez, j'ai fait un impair. J'ai dit qu'il y avait 5 livres de la région, j'en ai cité 4. Et je voudrais donc citer Grégory Bucher, qui est un Lillois et qui a écrit un livre qui s'appelle Malakoff aux éditions Verticales.
Voilà, l'erreur est réparée. Donc, bon courage pour la lecture. Je pense que là aussi, il y a courage et plaisir.
Oui, moi j'ai fini, j'ai tout lu là.
Voilà, d'accord. Donc, on ne va pas dire sur lesquels vous avez fait déjà un petit peu votre idée, votre choix. On va laisser le jury s'organiser. De manière autonome et nous livrer son verdict. On rappelle la date ?
7 novembre, 11h, rue des Sarrasins, donc au Cheval Blanc à Oisem.
Voilà, le rendez-vous est noté. Merci Michael Moglia et merci aussi de nous tenir au courant.
Merci Radio Campus et vive les radios libres.